Bienvenue à Olivet, dans un grand champ à l'extérieur de la commune, un lieu complètement en lien avec l'événement du jour, la 17e édition de Planète en Fête. Le salon de l'agriculture biologique et du développement durable organisé par le CIVEMBIO a eu lieu les 3 et 4 juillet derniers. Reportage sur place alors que l'édition 2020 avait été annulée à cause de la crise sanitaire.
Céline Launay, je suis coordinatrice au CIVEMBIO Mayenne, l'association des producteurs bio de la Mayenne, et je suis en charge de l'organisation de Planète en Fête.
Ici à Olivet, comment est-ce que vous avez peut-être adapté cette édition par rapport aux années précédentes ?
Alors finalement, on n'est pas du tout dans le bourg de la commune, alors que ça devait. Donc là, on est dans une grande parcelle à l'extérieur. C'est un peu dommage, mais voilà. Et puis, on a dû effectivement séparer le site en deux. Alors même si ça sera beaucoup plus effectif, je pense, demain. Mais voilà, on a dû séparer en deux îlots pour permettre la jauge des 1000 personnes et permettre à un maximum de personnes de venir à Planète en Fête.
Justement, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le principe tout simplement de l'événement Planète en Fête pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ?
Alors Planète en Fête, c'est un événement itinérant. Donc on change de commune chaque année. Chaque année, on crée une dynamique avec vraiment les locaux sur l'organisation. Donc on démarre en décembre avec une réalisation donc en juillet. Et donc l'idée, c'est vraiment de réunir tout ce qui se fait sur le département et puis un peu au-delà sur tout ce qui est énergie renouvelable, développement durable, habitat sain, agriculture bio, aussi tout ce qui est textile, bien-être, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut consommer autrement sur plein de domaines, puis comment on peut aussi envisager autre chose sur la manière d'apprendre, les apprentissages aussi dès qu'on est tout petit, enfin voilà, découvrir au maximum tout ce qui se fait et que les gens puissent se rencontrer, les professionnels et puis les particuliers.
Alors donc ça c'est effectivement l'objectif, et concrètement comment ça se passe là sur les deux jours ?
Alors concrètement, on a une bonne soixantaine d'exposants. Finalement, ça a bien répondu. On a, j'ai pas calculé, mais je pense qu'on a une bonne vingtaine d'animations et beaucoup d'animations pour les enfants, pour les petits. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis on a une bonne dizaine de conférences qui sont plutôt sur le domaine de l'agriculture, l'installation, l'accès au foncier, l'implication des consommateurs dans les installations, aussi la conversion à la bio, les déclics, et puis une façon aussi de s'alimenter autrement, la résilience alimentaire, et comment on peut faire autrement et localement et sain et bon, voilà.
C'est effectivement, j'imagine, les grands thèmes, en tout cas, qu'on peut retrouver cette année. C'était déjà le cas aussi au cours des années précédentes, où il y a une évolution aussi par rapport à l'évolution de la société, tout simplement.
On peut peut-être, sur les conférences, avoir une petite évolution, c'est-à-dire qu'en fait, sans s'en rendre compte, puisqu'on a tout fait en 5 semaines, hein, mais finalement, tout s'est concentré autour de cette thématique de l'installation, de l'accès au foncier, de l'implication des collectivités dans cette problématique-là. Donc, au final, on se retrouve avec un programme... On a l'impression, nous, en tout cas organisateurs, plus cohérents que les années précédentes. Et puis on a aussi eu beaucoup d'appels vraiment spontanés de personnes qui voulaient proposer des ateliers, apprendre aux enfants, par exemple, à travailler le bois. Ça a vraiment été condensé en peu de temps, mais les gens se sont vraiment mobilisés, quoi.
La programmation, elle est très variée. Il y a aussi bien des conférences que des ateliers pour les enfants, que j'ai vu des balades, que même des ateliers de théâtre. C'est une volonté justement d'ouvrir et d'avoir une programmation très variée comme ça ?
Ouais, c'est vraiment la volonté de Planète en Fête. Ça, on essaie vraiment tous les ans d'avoir toute cette ouverture-là pour que les gens puissent se tester, ne serait-ce que 3 quarts d'heure peut-être sur le théâtre d'impro, mais et peut-être après se dire, j'ai envie d'aller plus loin et à Laval, il y a ça et je peux aller vraiment m'exprimer. Voilà, vraiment ça, on a à cœur de montrer tout ce qui est possible et d'avoir cette ouverture d'esprit-là et que c'est possible chez nous, quoi.
Quel est justement l'intérêt pour le CIVEMBIO d'organiser un tel événement ?
Alors effectivement, on peut se la poser la question. Finalement, je pense que l'agriculture bio en elle-même n'est pas au cœur, on va dire, de... Mais pour nous, c'est un tout en fait. On ne fait pas de la bio pour faire de la bio. Pour le CIVEMBIO, on est vraiment sur un tout, un état d'esprit et tout ce qui va avec. Et un jour, peut-être qu'effectivement, les enfants viennent là pour le spectacle sur les abeilles ou sur les jeux en bois. Mais un jour, ils diront « Ah tiens, c'est vrai, peut-être que quand j'étais petit, j'y allais. » Et au final, c'était quoi ? Ah ouais, en fait, on parlait déjà d'agriculture, de faire autrement. Et puis, j'ai entendu des choses à ce moment-là. J'ai eu un déclic où... C'est ça qu'on essaie de faire, et je trouve que cette année c'est encore plus fort parce qu'il y a des gens là pendant un an et demi qui ont été très très seuls et là voilà, on retrouve une vie et c'est un peu d'émotion parce que même nous ça nous a manqué quoi.
C'est la 17e édition, c'est ça? Ça veut dire qu'il y a forcément, j'imagine, aussi bien dans le public, on va dire, dans les spectateurs, que dans les organisateurs, dans les intervenants, des habitués qui reviennent avec d'année en année?
Ouais, c'est ça. On retrouve des têtes tous les ans, des exposants qui sont là tous les ans, mais même dans les conférences, dans les référents qui sont là aussi depuis le début sur Planète. C'est bien d'avoir ce fil conducteur là, de voir les évolutions. Mais il y a aussi les nouveaux. Ça, c'est aussi hyper riche en échange et puis aussi en vision, de voir comment les choses évoluent. Donc ça, c'est bien.
Bonjour, donc Jean-Rémy Villette. Je suis menuisier à Laval. Je travaille exclusivement le bois massif et je porte aussi le projet d'un réseau de bois d'œuvre local et durable en Mayenne que j'ai initié il y a un an à peu près pour essayer de faire rencontrer aussi bien les artisans que les propriétaires d'arbres, essayer de valoriser tout ça, que ce soit au niveau du bois que des savoir-faire en Mayenne.
Comment est née justement cette idée dans votre esprit ?
En fait, c'est un besoin à la base personnel. Parce qu'en tant que menuisier bois, si je veux aller au fond de ma démarche, j'ai absolument besoin de trouver du bois local et de savoir d'où il vient. Alors pas forcément le récolter moi-même, le scier moi-même, mais de faire partie de la boucle de la chaîne humaine qui crée la confiance et les liens qui font que je sais que la personne va travailler d'une certaine manière dans le milieu, dans la forêt ou dans la haie. Et après, que je sais que ce bois, du coup, est durable de son milieu jusqu'à la réalisation que je vais faire.
L'idée, ce serait de réunir qui dans ce réseau ?
Alors, dans ce réseau, l'objectif, c'est de réunir aussi bien des artisans qui ont besoin de bois que des propriétaires qui ont des arbres. Donc ça peut être des agriculteurs, ça peut être des forestiers, des petits propriétaires forestiers qui souvent ont besoin de compétences et de connaissances pour essayer d'améliorer leur petite forêt, leur milieu, et apprendre à le gérer. Et aussi plein d'autres structures qui travaillent déjà le bois. Donc ça peut être les gens du bois énergie, les collectivités qui ont aussi des arbres. Ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers, des citoyens aussi qui veulent protéger la forêt et en faire un lieu aussi de vie. Pas forcément que mettre sous verre pour le protéger en termes de biodiversité, mais c'est aussi de faire vivre aussi bien par la biodiversité que humainement, avec les métiers et les savoir-faire de la forêt.
Qu'est-ce qui est important pour parler de bois durable ?
Ah, alors là, on touche à d'autres notions. Là, c'est plus mon métier. Hein. C'est le métier de l'expert forestier, en théorie. Alors, par exemple, sur la haie, on peut s'appuyer sur le label haie, qui permet de s'assurer que la haie, elle est bien régénérée naturellement, qu'elle n'est pas surexploitée, qu'on fait attention au milieu. Et côté forestier, on se rapproche plus des méthodes prônées par ProSylva ou par le réseau des alternatives forestières, qui est un réseau français autour de la sylviculture douce, qui essaie de mettre en place, de prôner justement cette sylviculture douce qui est déjà existante par des experts forestiers, qui est déjà mis depuis plusieurs années, je crois, une trentaine d'années. On fait attention au milieu, qu'il y ait une certaine régénération naturelle, que quand on prélève, ça va plutôt améliorer plutôt que le dénaturer. Qu'on fait attention au sol, à la biodiversité, aux périodes de prélèvement et aux fréquences, ainsi qu'aux quantités. C'est un ensemble, quoi. C'est pas si simpliste.
Et donc là, l'idée, ce réseau-là, il commence à naître, ça y est, à se développer. Quelles vont être ses prochaines actions ?
L'objectif cette année, c'est plutôt de proposer à des artisans de récupérer déjà certains bois pour se confronter à la réalité du sciage et du séchage de bois locaux. D'estimer aussi la valeur d'un bois de nos pays. En parallèle, de développer aussi nos connaissances qu'on pourrait avoir entre nous, aussi bien nous les artisans de la forêt que les forestiers ou les propriétaires d'arbres des artisans.
Et pourquoi pour vous c'est aussi important justement de travailler avec du bois durable et de mettre en place, d'avoir mis en place ce réseau ?
Parce que on n'a plus le choix. C'est indispensable maintenant. Parce que là, on a absolument besoin de faire attention à notre milieu. On a de la chance en France, la forêt a une surface qui augmente, mais il faut qu'elle augmente de manière qualitative aussi. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Donc il faut faire attention au milieu. La biodiversité, c'est important, c'est peut-être ça qui nous sauvera du réchauffement climatique. La haie, encore plus aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la haie, c'est ce qui permet de retenir l'eau sur le territoire, dans le sol. La forêt également, c'est elle qui permet de créer des pluies dans les territoires plus à l'est, avec les vents. Donc l'arbre est notre ami, hein. Bon, prendre soin.
S'ils sont anciens et qu'ils n'ont jamais fructifié, il faut regarder les fleurs au printemps.
Ouais, c'est ça. Alors, les deux fois, je regarde au printemps.
Il y a une manière spéciale de couper en trois. Vous disiez tout à l'heure qu'on coupe bien ou pas bien, quelque part l'arbre s'adapte.
Oui.
Que j'ai compris.
Oui, oui. Alors, Dominique Mention, je suis fils de petit paysan du Perche dans le Loir-et-Cher. Et depuis très longtemps, je me passionne pour ces arbres qui étaient sur la ferme familiale, que chez moi on appelle des trognes, et qu'en Mayenne on appelle souvent des émousses. Et je suis artiste, auteur, illustrateur, je publie des livres, j'ai fait tous les dessins de la flore forestière française, et je suis engagé depuis très longtemps au niveau associatif.
Pourquoi cette passion justement pour les arbres trognes ? À quoi ça ressemble déjà pour ceux qui ne voient pas bien ?
Alors les arbres qu'on appelle les trognes ou les émousses, c'est des arbres qui ont une grosse tête en général, qu'on voit dans les campagnes, dans les haies le plus souvent, mais il y en a aussi en ville. Et pourquoi ils ont cette grosse tête ? Parce qu'ils sont régulièrement taillés à hauteur, et à chaque fois qu'on les taille, ils font des bourrelets qui font grossir l'arbre de la tête. Et à chaque fois que l'arbre est coupé, il y a des bourgeons qui démarrent et qui refont des branches, ce que j'appelle des rejets, qui sont même des arbres à terme.
Le thème de la conférence que vous avez proposée ici à Planète en fait, c'était par rapport à ça. L'idée, c'était quoi ? C'était de présenter l'intérêt de ces trognes ?
Ben, c'est de montrer que ces arbres qu'on a créés depuis très très longtemps dans les campagnes, avant notamment qu'arrivent les énergies fossiles, eh bien ces arbres aujourd'hui redeviennent d'actualité par le fait que ce sont des productions qu'on peut avoir très près de chez soi, autonomes, pour des tas d'usages. Ça peut être le bois énergie, ça peut être la litière pour le bétail, dans le cadre agricole par exemple, mais ça peut être aussi pour des particuliers de se faire des fagots, pour faire des petits abris, de faire aussi de ces arbres pour apporter de la biodiversité, parce que ce sont des arbres dans lesquels les animaux vont pouvoir trouver du refuge, faire des nids, même s'abriter grâce aux cavités. Enfin, il y a plein de fonctions qui sont liées finalement à une pratique régulière de taille de l'arbre. C'est une sorte de cueillette, mais d'un arbre champêtre, mais une cueillette régulière.
On peut faire ça avec tous les arbres ou pas ?
Alors on peut pratiquement tailler toutes les essences champêtres, le saule, l'érable, le chêne, le noisetier, le frêne. Et puis il y en a d'autres qui sont plus courants dans le bocage. Et ici en Mayenne, comme le chêne, le charme ou le frêne. Mais pratiquement toutes les essences feuillues peuvent être taillées en trognes, y compris le houx par exemple.
On entendait par exemple une dame tout à l'heure qui disait « Oui, mais moi j'ai l'impression que je fais du mal aux arbres quand je le coupe. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ?
Ah ben ça, c'est toujours la question. Ça fait mal aux arbres. Mais les gens qui boivent du jus de pomme, par exemple, ils ne pensent pas que les arbres, au départ, ont été greffés. Donc est-ce que ça a fait mal à l'arbre greffé ? La question est un peu à côté. C'est une sensiblerie bien de notre époque, mais qui ne correspond pas du tout à la physiologie de l'arbre.
Comment vous expliquez le fait que les trognes, on en parle plus aujourd'hui plutôt qu'il y a 15, 20 ans, voire peut-être même plus ?
Déjà, le fait de leur disparition accélérée avec la mécanisation, avec la perte des usages, parce que le problème, il est d'abord là, a fait que tout d'un coup, on s'est rendu compte que ces arbres, peut-être d'abord la biodiversité, puis après de se dire, mais là, il y a des arbres de production qu'on a sur place, plutôt que d'aller chercher de l'énergie à l'autre bout du monde, enfin comme c'est parfois le cas, on a cette production et cette production démultipliée possible dans le cadre d'un système linéaire avec les haies, mais ça peut être déboisement, ça peut être en ville. Enfin, on se rend compte tout d'un coup que l'arbre, il est là et on avait oublié. Enfin, en fait, c'est une perte de regard, de connaissance qui a fait que la préoccupation qui sont celles de l'écologie, entre autres, mais aussi de la biodiversité, de la production durable, de proximité. Et c'est pour ça que ces arbres-là, tout d'un coup, ils deviennent une évidence.
Peut-être que pendant certaines années, on ne s'est pas interrogé du changement de notre environnement, en fait, tout simplement.
Oui, le paysage s'est érodé petit à petit. Ça s'est fait peu à peu sous nos yeux. Et comme tout ce qu'on a sous les yeux, on ne le voit pas. Et tout d'un coup, maintenant qu'on le voit, ça devient une évidence. Donc je pense que toutes ces raisons-là font qu'aujourd'hui, ces arbres deviennent vraiment d'actualité. Et ce qui est le plus urgent, c'est d'en recréer. Et on peut en recréer très vite partout. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. Ça concerne tout le monde. Ça concerne bien sûr le domaine agricole, notamment les éleveurs, parce qu'eux sont souvent plus sensibles à l'intérêt de l'arbre. Mais ça concerne aussi les céréaliers. Il y a des céréaliers aujourd'hui qui commencent à se dire, dans le cadre de l'agroforesterie, il y a peut-être nécessité de remettre des arbres. Et comme la trogne, on enlève sa concurrence régulièrement par la taille, c'est intéressant par rapport aux céréales. Ça intéresse aussi le vignoble. J'ai fait des formations dans le vignoble de Champagne, par exemple, pour les trognes. Et puis, ça intéresse la collectivité dans le cadre des espaces communs, puisque ça produit de la biomasse et du paysage. Et puis, ça intéresse le particulier, puisque ces arbres, on peut les mettre sur des espaces très petits. On n'a pas besoin de faire une trogne très haute et on peut produire ces petits fagots pour allumer son insert ou pour faire des abris pour les insectes ou pour le hérisson. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités dans toutes les situations en définitive.
Ici aussi, en Mayenne, ce n'est pas forcément une question de paysage.
Non, mais c'est une question d'usage. Le réflexe qu'on a habituellement, on dit quand on a besoin de quelque chose, on se dit mais où est-ce que je vais l'acheter ? D'abord ça, plutôt que dire peut-être qu'on a ça sous la main et qu'on sait, mais on a perdu le savoir et le savoir-faire. Et c'est ça aussi qui revient avec l'usage des trognes.
Pourquoi c'est un sujet qui vous passionne autant, vous, personnellement ?
Alors moi, j'ai vu mon papa tailler les trognes à la cognée quand j'étais gamin, à la hache. Ces arbres, avec leur morphologie particulière, moi qui suis artiste, je pense que ça m'a marqué dès tout petit. Et puis, dès tout petit aussi, j'ai joué dans ces arbres. Et je pense que tous ces faisceaux qui sont liés quand même beaucoup à l'enfance font qu'à un moment donné, avec leur disparition accélérée, pour moi, c'était un déclenchement de dire qu'il faut absolument faire quelque chose pour qu'on prenne conscience de ces arbres. Et moi-même, j'ai découvert plein de choses, évidemment, que je ne connaissais pas et que je découvre toujours au fur et à mesure que je rencontre des agriculteurs, des gens qui peuvent s'intéresser à ces arbres. Et puis, toute la vie aussi qui se réfugiés dans ces arbres, le fait de savoir finalement que c'est un peu le relais de nos forêts primaires par rapport à l'abri de certaines espèces remarquables qui ne seraient plus là s'il n'y avait pas eu les trognes. L'exemple du pic-prune, par exemple, qui est une espèce protégée par la Convention de Berne, on sait que c'est dans les vieilles châtaigneraies et dans les trognes qu'il existe, et en dehors de ça, il n'existe plus dans les forêts, parce que mais il n'y a plus ces vieux arbres qui peuvent produire le terreau suffisant, et des relais aussi de succession d'arbres qui permet à ces insectes et à leurs larves de pouvoir continuer à vivre.
Sur ce même cactus, depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts. L'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? Tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Et ça tout le monde savait. je m'appelle Sarah, je suis lavalloise depuis 4 ans et du coup je fais partie de l'association de sauvegarde des jardins de Beauregard qu'on vient de reprendre en février 2021 après 10 ans où elle était à l'arrêt. C'est une association qui existait de 2009 à 2012 où il y avait des jardins collectifs, des rencontres, des animations culturelles et des projets très intéressants socialement et écologiquement parlant. Et puis elle a été abandonnée cette association quand la ville de Laval a décidé de revendre le terrain à un promoteur immobilier qui n'a finalement jamais construit.
Pourquoi reprendre aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a ressuscité cette association qui était mise en sommeil depuis 9 ans ?
En 2020, on a fondé un collectif. Du coup, on était plusieurs autour de ces jardins parce que déjà, on voulait sa préservation. On était contents d'y aller. Et on a appris, avec l'installation de la nouvelle municipalité, on a appris que malgré les promesses de conserver ce poumon vert, il y avait un projet de construction qui est assez opaque encore aujourd'hui, parce que finalement, on entend parler de certaines choses, mais la mairie veut prendre son temps, ne se prononce pas pour le moment. Mais nous, on est assez inquiets, on aimerait avoir des réponses à nos interrogations. Donc on a repris l'association, pour que notre groupe soit officialisé un peu, et pour pouvoir discuter avec la mairie et être porteur d'idées, de propositions. Donc voilà, depuis février, c'est ce qu'on essaye de faire. On a organisé tout l'été dernier des rencontres, tous les dimanches au jardin, des ateliers autour de plein de thèmes. Et on a fait la fête de la musique au jardin qui avait eu beaucoup de succès. Beaucoup moins cette année, puisqu'on a refait une édition, mais sous la pluie. Donc c'était un peu plus compliqué, mais on essaye de faire connaître cet endroit et surtout, on aimerait qu'il soit préservé. C'est important de le préserver parce que c'est 1,4 hectare d'espace vert où il y a vraiment beaucoup de vie, c'est foisonnant, puisqu'il a été abandonné et qu'il y a très peu de monde qui y va. Donc il y a des promeneurs qui y vont avec leurs chiens, il y a des enfants du quartier qui viennent y jouer, ils construisent des cabanes. Il y a beaucoup de gens qui vivent en HLM tout autour et qui aiment s'y promener, quoi. Surtout ces derniers temps. Voilà, moi j'y ai passé beaucoup de temps moi-même parce que c'est une vraie respiration. On entend les oiseaux, il y a plein d'insectes, il y a plein de fleurs, il y a plein de plantes différentes. On trouve des plantes aromatiques. On avait fait avec Mayenne Nature Environnement un audit de la flore l'année dernière qui était assez riche, assez intéressant, qu'on va sûrement renouveler pour faire des comparaisons tous les ans. Et en tout cas, voilà, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup d'oiseaux. C'est un espace qui est important aujourd'hui, vu les contraintes écologiques qu'on rencontre et qu'on va rencontrer. Il y a des arbres, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Il y a des fruitiers et surtout, il y a un potentiel intéressant autour de la préservation de l'environnement. Peut-être emmener des classes, faire découvrir aux gens les plantes sauvages qui y sont, les plantes domestiques qui y sont. Il y a plein d'ateliers possibles et il y a un potentiel aussi alimentaire autour de l'autonomie alimentaire, surtout des précaires, puisqu'on est entouré de HLM. Donc l'idée, ce serait d'avoir des jardins collectifs pour apprendre à jardiner ensemble correctement, pour passer des moments collectivement aussi ensemble. On en a vraiment besoin. Intergénérationnel, voilà, que les gens puissent se rencontrer. Donc c'est pour ça qu'on est là. Nous, on est contre le béton. On aimerait que cet endroit ne soit pas artificialisé dans le sens de l'artificialisation des terres, donc pas de béton. C'est un peu compliqué à faire comprendre parce que l'espace est grand et beaucoup de gens s'imaginent qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a déjà assez de béton partout qui pousse comme j'ai envie de dire comme de la mauvaise herbe, hein, c'est un petit clin d'œil. Nous, on est vraiment dans cette logique stop béton, quoi. Stop la construction, il y en a beaucoup trop. Il y a des priorités aujourd'hui. Il faut mettre l'argent où il faut.
Dans l'association, donc vous êtes combien et quels sont vos profils ?
Alors, la jeune association que nous sommes compte une trentaine d'adhérents aujourd'hui. On essaye de faire connaître davantage l'asso et le lieu. C'est aussi pour ça qu'on est à Planète en Fête cette année. Les profils sont très variés. Ce sont beaucoup de Lavallois, mais pas que. Beaucoup de gens du quartier aussi. On est quelques-uns à habiter autour. Il y a de tous les âges. Il y a un peu de tout, j'ai envie de dire. Je ne saurais pas vous dire, c'est assez... éclectique, ouais, on peut dire ça.
Bonjour, moi c'est Guillaume Desmonts, animateur du collectif Fer, Asso Lavalloise, avec des ateliers de fabrication à forcer.
Ces ateliers de fabrication, en quoi ça consiste ?
Alors l'Asso, elle a plusieurs activités. La première, c'est de fabriquer des aménagements intérieurs-extérieurs, du mobilier à partir de matériaux de réemploi, donc donner une seconde vie aux matériaux et puis éviter le gaspillage. Et la seconde activité principale, c'est l'animation de chantiers participatifs, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Planète en Fête 2021.
Qu'est-ce que c'est vraiment un chantier participatif, même si c'est certainement un peu inclus dans le nom, mais...
Très concrètement, c'est qu'on a apporté des matériaux, des outils, on a travaillé sur un plan pour fabriquer des chaises longues, des chiliennes, comme on peut dire aussi. Et donc l'idée, c'est qu'on propose aux participants de l'événement de venir bricoler avec nous et d'apprendre à faire par eux-mêmes, mais de manière accompagnée, quoi.
Ça y est, les chaises longues sont devant nous, c'est bon, ça a bien réussi.
Eh bien, on dirait, ouais, il y a eu des utilisateurs tout au long de la journée, un peu de bricoleurs et bricoleuses, et ouais, on est assez satisfait du résultat, quoi.
C'est justement d'amener à faire au bricolage justement des gens qui s'y connaissent pas du tout ou juste de favoriser le réemploi ou les deux ?
Bah, c'est les deux. On va dire que l'idée, c'est ouais, ça peut pas être l'un sans l'autre. On a essayé de mettre, d'inclure les deux à la même proportion dans les valeurs de l'asso. Et là, voilà, l'avantage de le faire en participatif, c'est aussi qu'on partage des très bons moments, en plus de partager des savoir-faire et tout, quoi.
Ça fait longtemps que l'association existe ?
Alors, elle a été créée en mai 2017. On a évolué petit à petit et les chantiers participatifs étaient la toute première activité. Et à la demande, on a développé la fabrication artisanale en atelier où là, il n'y a pas d'aspect participatif parce qu'on nous demandait aussi des produits en récup et faits voilà, en atelier et vendus comme tels, quoi.
Au niveau de tous les matériaux, si c'est de la récupération qui vient d'où ?
Alors, on achète principalement nos matériaux. Vu qu'on travaille à la commande, c'est pas si facile que ça de récupérer les matériaux qu'on veut. Donc, on va plutôt aller sur des sites de vente de matériaux d'occasion ou d'objets ou des partenaires comme ça peut être Bois Debout 53, Emmaüs, Alternatri. Voilà, tous les copains, structures sociales du coin avec qui on bosse très bien, quoi.
Pour la prochaine, la rentrée, j'imagine que là, ça va reprendre à partir de septembre, surtout tout ce qui est chantier participatif.
Ouais, non, on n'arrête pas du tout, en fait, parce que ben justement, la période estivale, notamment avec les structures du type maison de quartier ou structures médico-sociales, etc., ont besoin de fournir des animations et localement, là, ils bougent un peu moins que d'habitude. Donc, ils font appel à nous pour venir animer des ateliers en maison de quartier ou ailleurs, quoi. Donc, c'est assez chargé, ouais. Finalement, c'est bien. On bosse bien. Alors on va dire qu'on est à une cinquantaine d'adhérents cette année et une vingtaine de membres actifs entre des artisans partenaires, les gens qui participent au fonctionnement de l'asso et les sympathisants qui viennent filer des coups de main sur des événements comme cela.
Donc là on voit il y a les chaises longues qui ont été fabriquées aujourd'hui, ça peut être quoi d'autre comme meubles ou autres matériaux ?
Ça peut être un peu de tout, on va dire. C'est de l'aménagement intérieur-extérieur, mobilier. On a l'exemple de la Sylvain, de la Vraquerie, qui est présent à l'événement. Donc on a aménagé son fourgon également. On a travaillé, par exemple, on a fabriqué le comptoir du bar à vin, le Kilubu à Laval. On va fabriquer des toilettes sèches, des abris, des cabanes, des tables. Et là, le prochain projet qu'on a qui est intéressant, c'est l'aménagement d'un vent à chevaux en bar à vin itinérant. Sympa aussi. Et tout en récup, donc ça va être cool.
Donc, je m'appelle Yvette Brossier et je fais partie de l'association Vent Citoyen. Alors, donc, Vent Citoyen existe depuis 7 ans, à peu près. Elle est née, donc, du fait que des gens se sont bagarrés il y a plus d'une dizaine d'années contre le projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Baie. Ce combat a été gagné, mais l'idée était que, on est contre le nucléaire, mais il nous faut quand même de l'électricité, donc... Quelle énergie on pourrait mettre en place. Il y a eu l'idée de mettre en place donc de l'éolien, du photovoltaïque. Et notre premier projet qui a pu aboutir en début d'année, là, c'est le parc éolien de Saint-Hilaire-du-Maine, qui, après une volonté municipale de faire un parc citoyen, donc c'est Abowin qui est un constructeur privé, qui a fait toute l'étude du parc et qui a pu construire le parc. Donc il y a eu une négociation entre Vent Citoyen et Abowin pour acheter ce parc. Et la négociation a abouti à ce qu'il y ait 25% du parc qui soit citoyen.
Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement que 25% de ce parc soit citoyen ?
Donc ça veut dire qu'il y a eu un investissement donc, au niveau des parts sociales pour 25% du coût du parc. Et ça veut dire que en fait, en gros, il y a eu au moins 300 personnes, soit en investissement individuel ou soit en investissement collectif. Et donc, il y a eu au moins 300 personnes qui ont pu financer sur ces parts sociales donc citoyennes. Et donc, à terme, cet investissement va donner lieu à des intérêts qui seront redistribués aux personnes qui ont investi. Vent Citoyen a négocié avec Abowin l'énergie produite, l'électricité produite, soit rachetée par Enercop. Donc, Enercop, c'est une coopérative qui peut distribuer et vendre l'électricité à vous comme à moi, enfin aux particuliers. Enercop reverse 1 euro par mégawatt produit. Avec 7 euros, on va développer des actions pour soutenir la transition écologique. Voilà, donc en ce moment, on est en train de travailler à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme action pour développer des actions liées à la transition énergétique. Alors ça pourrait être un travail près des enfants pour vulgariser aussi les énergies renouvelables. Ça pourrait être un travail sur la consommation d'énergie. La première économie d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
Ça permettrait, ce parc éolien, de produire quelle quantité d'électricité ?
Alors, il est en route. Et donc, en fait, il alimente 50% de la consommation électrique hors chauffage des habitants de la communauté de communes d'Ernée, aujourd'hui.
Interview réalisée à Planète en Fête le 3 juillet à Olivet. L'an prochain, l'événement devrait se tenir au sud du département.